RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
Père Yann Vagneux, bonjour.
Bonjour Thierry.
Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris, envoyé depuis 2010 en Inde. Vous êtes donné à vie à ce pays, comme l'on dit lors de votre ordination. Vous êtes prêtre à Bénarès, la ville sainte du nord de l'Inde. Et vous vous inscrivez dans cette belle lignée d'hommes et de femmes chrétiens qui ont choisi de vivre une vraie rencontre avec l'hindouisme et avec les hindous. À la suite de Jules Montchanin et d'Henri Le Sault notamment, vous nous invitez à vivre un vrai dialogue avec cette grande tradition de l'Inde. Alors que vous êtes de passage en France, bien, je suis heureux de vous rencontrer pour évoquer les deux ouvrages que vous venez de publier. L'un, Chemin de prière aux éditions Magnificat, et Portrait indien, que vous publiez chez Mediapol. Alors, Chemin de prière est un recueil de méditation et de photographie. Vous aimez beaucoup la photographie. En quoi vous aide-t-elle à prier d'une certaine manière? En quoi la photographie est-elle une forme de prière pour vous?
Quand on aime quelqu'un, ses amis, son épouse, ses enfants, on aime faire des photos d'eux. Et de la même façon pour moi, qui essaye d'apprendre à aimer l'Inde de jour en jour et de plus en plus, la photo depuis le départ a été essentielle. J'ai eu besoin de prendre en photo ce peuple et de m'émerveiller de sa beauté. Et je crois que c'est cet émerveillement, cette gratitude devant sa beauté, c'est aussi cette communion à ses souffrances, ont été ma prière, une prière sans mots, mais une prière à travers des photos, des images.
Il y a beaucoup de visages. Et il y a un chapitre dans ce livre, Chemin de prière, qui s'intitule « La prière des visages ». Vous écrivez « Avec le temps, j'ai fait de la contemplation émerveillée de tous les visages une véritable prière. »
C'est vrai. C'est le visage, c'est le porche de l'être. Alors le porche peut être parfois scellé, obstrué, lorsqu'on veut cacher le fond de son être. Mais la beauté de l'Inde, c'est de s'offrir, tout simplement. Et ces visages disent beaucoup du mystère de ces vies, de leur beauté, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, de leur souffrance. Et prenons en photo ces visages, apprenons aussi, à travers toutes ces longues heures dans les bus indiens, regardez tous les visages de mon peuple, ils sont nombreux, 1,3 milliard. J'ai fait de cette contemplation une prière, sentant chaque visage porte une vie, comme je vous le disais, avec ses joies, ses peines, et une prière d'intercession.
Père Yann Vagneux, vous êtes prêtre à Bénarès, cette ville sacrée au bord du Gange. On voit des millions d'hindous qui viennent prier dans cette ville, qui pratiquent des pujas, des cérémonies. Vous les observez, vous partagez même ces temps de prière, vous êtes très proche d'eux. En quoi l'observation bienveillante de ces formes de prière vous aide à prier vous-même, prêtre catholique?
L'une des plus grandes images de Bénarès, et je la prends souvent en photo, ce sont ces hommes et femmes qui viennent se plonger le matin dans le Gange face au soleil levant sur l'autre rive du fleuve et qui sortent du fleuve sacré les mains jointes, tendues vers le soleil. Et ça, c'est la noblesse de l'être humain qui est révélée. On est tendu vers un absolu, un plus grand que nous. L'homme passe l'homme, disait Pascal. Et cela, on le voit très concrètement dans ces priants du Gange qui vénèrent le soleil. Et cette intensité de prière, justement, me rappelle que moi aussi, je partage la même humanité. Bien sûr, je suis chrétien, bien sûr, je suis disciple du Christ. Mais avant tout, je suis cet homme appelé à rejoindre cette noblesse de me dépasser et de m'unir autant que faire se peut à cet absolu qui nous appelle.
Sur la couverture de ce livre, Chemin de prière, il y a une photo magnifique de ces montagnes de l'Himalaya. Vous allez régulièrement, comme beaucoup d'hindous d'ailleurs, dans les montagnes de l'Himalaya, du côté de Rishikesh, et vous célébrez l'Eucharistie, souvent seul, face à ces paysages magnifiques ou au bord du Gange. Qu'est-ce que cette prière sacramentelle, pour vous, prêtre catholique, représente?
Alors la photo de couverture est prise depuis l'ermitage que j'occupe plusieurs fois par an dans les Himalayas. Bien sûr, lorsque je célèbre la messe à Bimsar dans cet ermitage, Je suis entouré par le silence, mais aussi entouré par tous ces villages qui sont au pied de cette colline de Bimsar et toute cette humanité. Et je pense particulièrement quand je célèbre la messe le matin sur les bords du Gange, j'offre au Seigneur, vous savez, il y a l'offertoire à la messe, on offre le pain et le vin, j'offre au Seigneur la grande prière de ce peuple hindou, cette grande beauté, cette grande quête de Dieu. C'est ça, et que je peux être tout seul, physiquement, mais spirituellement, je suis entouré de ce peuple de priants, et puis on célèbre la messe avec toute cette église dont on ne voit que la partie découverte de l'iceberg. L'église est bien plus grande, l'humanité est bien plus grande.
Alors vous aimez beaucoup le père Jules Montchanin, qui a été un des pionniers du dialogue hindou-chrétien. Vous le citez dans le livre, vous dites « il faut dilater l'église ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui,
c'est un peu en lien avec ce que vous venez de nous dire, il faut dilater l'église.
Exactement. Il y a une phrase d'un ami du père Montchanin, Hans-Urs von Balthasar, le grand théologien allemand, qui disait « une église qui ne serait pas ouverte sur le monde dans sa totalité » aurait cessé d'être l'église du Christ. Et il ajoutait, nous sommes tous à la frontière. Et l'église n'est pas faite pour être une secte de quelques personnes choisies, sauvées. L'église, elle n'est pas faite pour se rabougrir, mais dans le mouvement même de cet amour de Dieu pour tout homme, et c'est bien le Christ qui nous a envoyés sur les routes du monde, l'église doit avoir une immense passion pour toute l'aventure humaine, même dans les formes qui lui semblent les plus étranges. Pour beaucoup de chrétiens, vous savez, l'hindouisme, on me dit, mais c'est tellement étrange et incompréhensible, mais qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces statues? Moi, je dis, il y a beaucoup de noblesse, il y a beaucoup de grandeur. De la même façon, dans l'art moderne, j'aime beaucoup l'art moderne, ça peut nous sembler étrange, mais il y a cette quête de l'homme pour se dépasser.
L'entretien de la semaine, RCF.
Père Yann Vanieux, vous venez de publier également chez Mediapol un autre livre qui s'intitule « Portrait indien, 8 chrétiens à la rencontre de l'hindouisme ». Alors certains sont très connus comme Mère Teresa ou le Père Sérac, d'autres par contre sont inconnus, en tous les cas en dehors d'un petit cercle d'amoureux de l'Inde, comme Marc Chaduc, Sœur Thérèse ou Pratsana Devi. Comment est-ce que vous avez d'abord sélectionné ces 8 amoureux de l'Inde?
C'est un choix totalement subjectif. Comme je le dis dans l'introduction du livre, c'est mon musée intérieur de ceux qui m'ont inspiré, qui m'aident à aller un peu plus à la rencontre de l'hindouisme en Inde, à Bénarès particulièrement.
Vous dites musée intérieur, moi j'ai l'impression qu'il y a une filiation chez vous entre le père Montchanin, le père Lesault, le père Sérac et vous aujourd'hui.
Alors, moi, je ne peux pas le dire, mais si vous le reconnaissez de cette façon, je suis heureux d'être digne d'être compté dans leur filiation. Oui.
Vous recevez, vous êtes nourri par ces
bien
hommes,
sûr,
ces
femmes. Bien sûr, ouais. Depuis tant d'années. Alors, certains, j'ai eu la chance de les connaître, comme le père Pierre Sérac, Prasanna Devi, l'ermite du Girnard, et puis d'autres, je ne les ai pas connus physiquement, mais je me nourris tellement de leurs écrits, de leur vie, comme Henri Lesault, Marc Chaduc, ils sont tellement vivants, ce sont des grands vivants.
Alors, parlons un instant de Marc Chaduc, parlons de ceux qui sont les moins connus. C'était le disciple d'Henri Lesault, le seul disciple d'Henri Lesault.
Pas le seul disciple, parce que je parle aussi de Sœur Thérèse, une carmélite de Lisieux qui a rejoint Henri Lesault et qui fut une très proche.
Mmh.
Voilà. Mais on a entendu parler de Marc quand on est un peu dans le cercle de ceux qui s'intéressent à Lesault. C'était un séminariste français et qui est parti, on est dans les années 68, donc on voyage et on va vers l'Inde. Et lui, il est parti vers l'Inde, il allait rencontrer le père Lesault, et entre deux est née une filiation, pour le coup une filiation très forte, et une transmission spirituelle. Ce qui fait que Marc, qui devait passer 6 mois en Inde, va y passer le reste de sa vie. Il avait 28 ans quand il est arrivé en Inde, il en aura 33 ans quand son chemin s'arrêtera.
Oui, parce qu'il est mort en Inde et il a disparu.
Alors, il a disparu, oui, on pense qu'il est mort, il a disparu. Alors, en fait, il a pris, le jour où il aurait dû être ordonné prêtre, mais il avait arrêté le séminaire, mais le jour où il aurait dû être ordonné prêtre avec ses camarades, il est devenu renonçant, sannyasi, on dit, en fait, renonçant, dans la double lignée des moines chrétiens et des moines hindous, puis il est devenu ermite en Inde. Et il a disparu, son ermitage a été retrouvé vide.
Une vie à découvrir dans ce livre. Une autre femme qui m'a beaucoup fasciné, surtout grâce à une photo que vous avez prise d'elle, un visage lumineux, c'est Prasanna Devi. Quelques mots sur cette femme incroyable.
Alors, encore une ermite. J'aime beaucoup parler des ermites parce que ce sont pour moi les grands piliers invisibles du monde. Prasanna, voilà, une femme chrétienne qui s'est aussi aventurée sur ce chemin.
Alors, elle est née en Inde.
De l'esprit, elle est née en Inde. Elle est née en Inde au Kerala, dans une famille chrétienne. Et elle est venue à l'ouest de l'Inde, au Gujarat, sur les pentes du mont sacré Girnar, qui est sacré pour les hindous, les jaïnes. Et elle s'est établie dans un ermitage. Et elle est devenue une Mataji, une mère spirituelle, reconnue que tous les hindous du Girnar connaissent et viennent vénérer. Ils viennent lui demander ce qu'on dit en sanskrit, son darshan, c'est-à-dire sa vision, que les yeux de l'ermite se posent sur chacun de ceux qui viennent la rencontrer. Vous savez, les yeux du gourou font basculer des vies.
Ce qui frappe quand on lit ces vies, c'est le dépouillement, le renoncement. Ça semble être des vocations très particulières quand même. Est-ce que ce renoncement que l'on voit en Inde chez les fameux sannyasins de l'Inde est en profonde communion avec ce renoncement de ces chrétiens?
Alors on parlait des Himalayas, de cette verticalité qui couvre toute l'Inde, la verticalité des sommets, et puis il y a une verticalité dans la spiritualité hindoue, il faut quitter son ego, et pour quitter son ego, alors il y a ce dépouillement des renonçants qui quittent leur famille, qui quittent leur richesse, qui quittent leur nom. Ces chrétiens, eux, ils ont été dépouillés parce que je pense quand même que toute vie spirituelle nécessite un dépouillement. Mais eux aussi, ils ont été dépouillés pour se rendre, dépouillés des petits mondes dans lesquels ils ont grandi au départ. Toute église peut être un petit monde, mais dépouillés pour se faire les frères et les sœurs de tous.
Merci beaucoup, Père Yann Vagneux. Il nous faudrait des heures pour parler de tous ces portraits. Je renvoie bien sûr à vos livres, Portraits indiens, 8 chrétiens à la rencontre de l'hindouisme, et puis ce très beau livre de photographie qui s'intitule Chemin de prière, aux éditions Magnificat. Merci, Père Yann Vagneux, et bon retour en Inde.
Merci, Thierry. Thank you.